Jérémie reçut du Seigneur cette parole. « Debout, Jérémie, descends chez le potier. C'est là que je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. » Je descendis donc chez le potier et le trouvai en train de travailler sur son tour. Si le vase qu'il façonnait était raté, ce qui arrive parfois avec l'argile entre les mains du potier, il en refusait un autre, comme il le jugeait bon. Alors je reçus du Seigneur cette parole. « Gens d'Israël, ne suis-je pas capable d'agir à votre égard comme ce potier ?» demande le Seigneur. « Vous êtes dans ma main, comme l'argile dans la main du potier. » Jérémie 18, 1 à 6.
Quel beau passage et quel bon artiste. Mais quel passage dans Jérémie 18. Nous sommes de l'argile dans ses mains, hein, comme l'argile dans un... Nous sommes dans les mains de Dieu comme l'argile dans les mains du potier. C'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. Il est en train de faire une œuvre en nous. Il est en train de prendre notre cœur qui est brisé, en train de le restaurer, le recréer, pour faire un nouveau. Il est en train de nous changer tranquillement, et ce que nous allons voir ce matin. Et dans les prochaines semaines, parce qu'on va commencer une nouvelle série ce matin, on va voir justement ce que Dieu veut faire avec nous. Eh bien, j'aimerais commencer ce matin en offrant nos condoléances, évidemment, à la famille Lalonde. Si vous n'êtes pas au courant, notre frère François vient de nous quitter cette semaine. François Lalonde qui luttait depuis un certain temps avec le cancer. Et il est parti cette semaine, il a quitté. Comme disait Lise, son épouse, il a changé d'adresse. Il est maintenant dans la présence de Dieu. Eh bien, on veut certainement prier pour que Dieu puisse consoler la famille. Vraiment encourager qu'il entoure Lise. Le service sera samedi prochain ici, à 11h, et vous êtes tous invités. On veut prier pour la famille et les enfants aussi. Dans le hasard de Dieu, Dieu a voulu que dans la même journée de cette triste nouvelle, eh bien, Sylvain et Elisabeth ont eu un enfant, une petite fille, Emma. J'ai vu une photo tantôt, on m'a montré des photos, très jolie. Donc, on félicite évidemment Sylvain et Elisabeth, que le Seigneur puisse les bénir abondamment. C'est comme aigre-doux, hein? Il y a un élément de tristesse à perdre papa. En même temps, il y a cette nouvelle vie qui arrive comme ça dans le foyer. C'est un mélange de bénédiction et de tristesse et d'épreuve. Donc, ils ont besoin vraiment de nos prières, qu'on puisse aller les encourager aussi, les saluer. Juste vous faire une petite annonce aussi, juste vous dire que M. Alexanian et Mme Alexanian, content de vous voir, Mme Alexanian, M. Alexanian a accepté d'aller aider Castleman aux deux semaines. Donc, il va s'absenter d'ici à l'Assemblée parce qu'il va aller faire un tour là-bas. Imaginez, à 80 quelques années, hein? 85, je crois, 85 ans, servir le Seigneur comme ça encore, merci pour le couple Alexanian, monsieur et madame Alexanian. Beau témoignage, un beau modèle. J'espère vieillir comme ça, bien vieillir comme ça, servir le Seigneur comme ça, sans se relâcher. Alors, monsieur Alexanian va s'absenter, aller donner un coup de main là-bas. Et la même chose pour la famille Tremblay, Paul Tremblay et Rachel. Paul travaille une couple de fins de semaine par mois à Rona, mais quand il est libre, il va donner un coup de main à l'église d'Orléans. C'est pour ça que Paul, on le voit moins ici. Sa fille continue de venir, mais Paul va donner un coup de main à l'église d'Orléans. Ils sont sans ouvrier là-bas, sans pasteur. Donc, prions pour ces deux couples là, qui exercent un ministère dans ces églises. On remercie Dieu pour eux. La vidéo qu'on vient de voir, c'est vraiment s'inspire de Jérémie 18. En passant, je ne sais pas si vous étiez là hier soir. J'aimerais vraiment féliciter Dominique et toute ton équipe de Case 2. Vraiment bien. J'ai bien aimé cet esprit qui sortait, c'était très clair que et vous le transmettez bien, votre amour pour le Seigneur, et vous nous avez emmenés avec vous dans la louange, dans l'adoration. Il y a même eu un appel pour ceux, une invitation pour ceux qui voulaient venir au Seigneur dans la soirée. Un très beau rythme, vous avez un beau son. J'ai dit à ma femme, j'ai hâte d'acheter le CD, l'album, pour faire mon jogging avec cette louange-là et ce rythme-là. Vraiment un beau rythme, belle musique. J'ai beaucoup aimé. Ma femme aussi, on revenait à la maison hier soir, puis on en parlait, on a vraiment trouvé ça bien. Alors, une belle équipe, Case 2, là, vraiment bien. Que le Seigneur vous bénisse et on veut vous encourager. Là, pour, ils sont en train d'amasser des fonds pour monter leur album, premier album. Alors, certainement, on veut les encourager. Eh bien, on a vu le passage ce matin. Notre frère Joël nous a lu dans Jérémie 18 où le Seigneur nous dit que nous sommes dans sa main. Nous sommes dans la main de Dieu et comme de l'argile dans les mains du potier. Et Dieu est en train de nous travailler, en train de travailler notre caractère et notre cœur. Et ça, c'est vraiment la différence avec la religion puis l'Évangile. On le dit souvent puis on le répète, c'est que la religion, c'est quoi dans le fond? C'est l'homme qui fait de l'effort pour essayer de gagner la faveur de Dieu, essayer d'être accepté de Dieu. Mais en fond, l'Évangile, c'est le contraire. C'est on a déjà été accepté de Dieu par Jésus-Christ. Et là, on veut lui plaire parce qu'on est tellement pris par son amour, tellement touché par son amour qu'on veut lui plaire. Mais on est déjà accepté. Alors, on n'essaie pas de gagner son affection. Je pense que c'est J.D. Greer qui disait dans son livre, il n'y a rien que tu peux faire que tu vas faire en sorte que Dieu t'aime encore plus et ni encore moins. En d'autres mots, rien que tu vas faire qui va faire que Dieu va t'aimer moins. Il ne t'aimera pas plus ni moins. Il va toujours t'aimer beaucoup. Il t'aime comme vraiment là beaucoup. Et il nous a déjà acceptés en son Fils, le Seigneur Jésus, pour ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie. Et on a besoin de se rappeler que l'Évangile, ce n'est pas juste le moyen pour aller au ciel. Le message de l'Évangile où Dieu a envoyé son Fils sur la croix, prendre notre place, notre jugement qu'on méritait à cause de notre péché. Ce message de l'Évangile de Jésus-Christ qui s'est offert pour nous, ce n'est pas juste le moyen par lequel on peut aller au ciel, mais c'est aussi la force motrice pour mener notre vie chrétienne jusqu'au ciel. Et ça, c'est la clé, ça. Il faut constamment revenir à ça. Regardez ce que dit Jésus, par exemple, dans Jean 15. Je vais vous lire un passage ici. On va le mettre à l'écran. Jean 15 qui dit ceci, « Je suis le cep, c'est-à-dire la vigne, et vous êtes les serments, les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus dit à ses disciples, la façon de produire du fruit, en fond, une autre façon de dire le secret de la vie chrétienne, au fond, c'est de demeurer en lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, demeurer en lui? Il y a un monsieur, un commentateur, Malatesta, qui s'est spécialisé, vraiment, il a fait beaucoup de recherches sur cette expression-là, demeurer en lui, qu'est-ce que ça voulait dire? Et chez Jean, ce que ça veut dire, ça fait allusion, ça fait un lien avec la nouvelle alliance qui avait été promise dans l'Ancien Testament. Et c'est quoi cela? Dans l'Ancien Testament, les prophètes disaient qu'un jour, Dieu allait venir envoyer le Messie, le Sauveur, afin de changer notre cœur, afin de nous donner un nouveau cœur. Et c'est la nouvelle naissance, au fond. Et que lorsque tu viens à Jésus-Christ, il prend ton cœur, qui est mort spirituel, et qu'il donne une vie spirituelle à ton cœur. Il te ressuscite spirituellement parlant. Et c'est cette promesse-là que Dieu allait venir par Jésus-Christ, son Fils, le Messie, pour changer notre cœur de pierre en cœur de chair, un cœur tendre à l'Évangile et à la parole de Dieu. Demeurer en lui veut dire cela. Mais continuer à demeurer en lui veut dire quoi? Eh bien, John Piper l'explique comme ceci, il dit, « Demeurer en Jésus, c'est lui faire confiance d'heure en heure, qu'il rencontrera tous tes besoins et qu'il sera ton trésor. » C'est l'implication qui en ressort d'une branche qui est connectée à l'arbre, à une vigne. C'est faire confiance à Jésus, c'est boire de Jésus. Vous savez, cette sève, c'est boire de cette vie spirituelle qui est en Jésus-Christ. C'est s'abreuver à sa vigne. Alors, demeurer dans sa vigne, c'est se reposer dans sa vigne, c'est puiser la vie de la vigne, c'est y rester, c'est recevoir de la vigne. Tout ce dont j'ai besoin, en d'autres mots, se trouve dans la vigne qui est le Seigneur Jésus. Ça se trouve en lui. J.D. Greer ajoute, il dit, « Demeurer signifie se sentir chez vous. C'est là que vous êtes bien. » C'est-à-dire, tu habites dans l'amour de Dieu qui a été manifesté à la croix par son Fils Jésus-Christ. Et ça, c'est le message de l'Évangile. Et tu restes là, tu habites dans l'amour de Dieu. Tu demeures dans son amour, tu te satures de son amour, et là, tu vas voir de beaux fruits pousser. Quand tu demeures en Jésus, tu verras de beaux fruits surgir de ta vie. Par exemple, tu vas être plus patient avec ton conjoint. Tu vas avoir plus de maîtrise de soi. Tu seras plus généreux. Et ça, c'est le fruit que le Saint-Esprit veut faire à travers toi, qu'il veut produire en toi. Demeurer en Jésus produira le beau fruit de l'Esprit. Et c'est ça qu'on veut voir dans les prochaines semaines, le fruit de l'Esprit. C'est une série qu'on veut commencer. On commence ce matin, on va juste introduire le sujet ce matin, le fruit de l'Esprit. Lorsque Jésus parle de porter du fruit, il est en train de nous dire qu'en lui, on va devenir de plus en plus comme lui. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il veut nous changer tranquillement afin qu'on devienne de plus en plus comme Jésus-Christ. Le fruit de l'Esprit, enfin, c'est le caractère de Christ. Et c'est ce qu'il veut produire en nous. Et c'est ce qu'on veut regarder dans les prochaines semaines. Donc, on va commencer par introduire cette série en regardant ensemble le livre de Galates, la lettre de Galates. Paul qui a écrit cette lettre aux Galates. Et j'aimerais vous inviter à me joindre à moi au chapitre 5. Et on va lire les versets 16 à 26. Galates 5, 16 à 26. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Eh bien, dans notre série, au cours de notre série, ce que nous voulons faire dans les prochaines semaines, c'est regarder chaque aspect du fruit de l'Esprit que le Saint-Esprit veut produire en moi. C'est le nouveau caractère que l'Esprit veut produire en moi. C'est le caractère de la personne qui se laisse toucher, imprégner et saturer de l'Évangile. En d'autres mots, une personne de l'extérieur, à ton travail, qui te regarde, devrait voir l'Évangile. Nous sommes les représentants de l'Évangile. D'ailleurs, Mark Dever a dit ceci de l'Église. Il dit, l'Église, c'est l'Évangile visible. L'Église est la manifestation visible et détectable de l'Évangile. Alors, les gens de l'extérieur peuvent voir l'Évangile à travers ton caractère. Les gens de ton bureau peuvent voir l'Évangile en voyant ton caractère. Et ça, c'est le fruit de l'Esprit. C'est un caractère qui est restauré, remodelé et changé par le Saint-Esprit. Alors, voici ce qu'on apprend ici quand on regarde ce passage qu'on vient de lire dans Galates. Voici ce qu'on apprend du caractère chrétien. Premièrement, on apprend que le chrétien a une double personnalité, dans le fond. Parce que, et c'est le point de Paul. Paul est en train de nous dire qu'il y a un combat à l'intérieur de chaque chrétien. Il y a un combat à l'intérieur. On livre un combat entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Et c'est là. Dernièrement, on a fait une série sur les armes du chrétien. Et nous avons regardé Éphésiens 6, où Paul est en train de parler d'un combat. Mais il parle d'un combat spirituel, non pas un combat contre l'être humain, mais un combat spirituel contre les forces des ténèbres. En le fond, c'est le diable. Le diable veut nous empêcher de devenir ce que nous pouvons devenir en Jésus-Christ. Le diable veut freiner l'œuvre de Dieu, veut nous empêcher d'avancer, de grandir. Ça, c'est le combat dont parle Paul dans Éphésiens 6. Et ce combat est à l'extérieur, ça vient du diable. Mais Paul est en train de parler d'un autre combat ici qui est à l'intérieur. c'est le combat contre la chair. Dans le fond, dans Éphésiens, il emploie une autre expression, contre le vieil homme, notre vieille nature, cette nature pécheresse qui est là. Et ça, c'est le combat dont parle la lettre aux Galates. Notre nature pécheresse a des désirs qui sont contraires aux désirs de notre cœur régénéré par le Saint-Esprit. Donc, il y a deux élans, deux passions. Le mot « désir » est très fort ici dans l'original. C'est vraiment là, comme passion, là, notre passion. On est attiré de deux côtés. Un côté de moi veut encore être égoïste. Je veux penser à moi. Je veux gagner. Mais j'ai un autre côté qui désire vivre pour Dieu. J.C. Ryle dit quelque chose de vraiment intéressant dans son livre qui s'intitule « La sainteté ». Et surtout dans le chapitre, il y a un chapitre qui s'intitule « Le combat ». Et il dit, en fait, on peut reconnaître un chrétien authentique par la paix qu'il a à l'intérieur. Nous, effectivement, les chrétiens, nous avons une paix qui est en dedans, dans notre cœur, un repos que Dieu, que seul Dieu peut placer au fond de nous. D'ailleurs, Jésus en fait allusion lorsqu'il parle dans Matthieu 11. Il dit, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Oui, effectivement, lorsque tu viens au Seigneur, le Seigneur Jésus place une paix qui est indescriptible dans ton cœur. Et ça, c'est la paix de Dieu. Mais en même temps, Ryle va ajouter quelque chose de vraiment intéressant. Il dit, on reconnaît un chrétien authentique, non seulement par la paix intérieure qu'il a, mais aussi par un combat intérieur. Effectivement, nous, les chrétiens, nous avons un combat. Si on avait un combat avant d'être chrétien, et on avait un, on en a aussi un autre maintenant que nous sommes chrétiens, mais le combat est différent. Vois-tu, avant d'être chrétien, ton combat était contre Dieu. Et c'était perdu d'avance. On ne peut pas se battre contre Dieu et gagner. Mais tu te battais, tu livrais un combat qui était destructeur, qui pouvait juste t'emmener à la perte et la perdition éternelle. Mais maintenant que nous sommes chrétiens, nous sommes un disciple de Jésus-Christ, on mène un autre combat, mais c'est un bon combat. D'ailleurs, l'apôtre Paul va parler à Timothée, il va parler à Tite et à Timothée, et il va dire « combat le bon combat ». D'ailleurs, lui-même, lorsqu'il termine sa vie, il va dire « j'ai combattu le bon combat ». Maintenant, le combat est complètement différent, parce que ce combat-là, lorsque tu lis ce combat-là, ça fait juste te faire grandir, et tu vas grandir de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Donc, c'est un bon combat. Tu peux juste être gagnant, c'est un combat qui est bon, contrairement au combat que tu menais avant d'être un enfant de Dieu. Si l'on mène bien ce combat, ça va juste nous rendre encore plus forts. Parce que notre vieux combat contre Dieu, c'était la destruction, mais pas celui-ci. C'est un nouveau combat qui va te rendre plus fort. Il y a un combat, et c'est ce que Paul est en train de dire déjà là au début de son paragraphe, il est en train de dire, écoutez, je veux que vous soyez bien conscient qu'il y a un combat à l'intérieur. Vous en êtes peut-être pas conscient en ce moment, peut-être que tout va bien, puis vous sentez moins ce combat, puis on se laisse un petit peu des fois aller, puis tout ça, puis on sent moins le combat. Mais moi, je peux vous dire une affaire. Aujourd'hui, si tu prends une décision, là, prends une décision, fais un test. Tu veux voir le combat? Tu vois, ça ne sera vraiment pas long. Prends la décision aujourd'hui, pendant les prochains 30 jours, que tu vas passer 30 minutes à lire ta Bible et prier. Maintenant, belle résolution, puis tu vas dire, « Hey, c'est super, ouais, pas de problème, je vais faire ça. » Alors, tu vas commencer aujourd'hui. Excellent, pas de problème. 2 jours. « Mais, pas pire. » 3 jours. « Hey, ça va bien. » 4 jours. Tout d'un coup, après 4 ou 5 jours, je ne sais pas, peut-être ça va être 7 ou 8, je ne sais pas. 4 à 5 jours, il y a quelque chose en toi qui va te dire, veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais réveillé à cette heure-là? Veux-tu bien rester couché? Pourquoi lire ta Bible? Tu vas avoir un combat qui va te dire, qu'est-ce que tu fais là? Oh, t'es pas capable, arrête donc. Pourquoi te donner tant de misère? C'est un combat. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat qui est là. Mais c'est un bon combat. Heureusement, ça a l'air, on dit, les experts disent que ça prend 21 jours à développer des nouvelles habitudes. Donc, si tu es capable de faire ton combat, livrer ton combat, ce bon combat-là pendant 21 jours, ça devrait être pas pire après. Mais ça sera jamais gagné pour la vie. C'est un combat, mais c'est un bon combat, vois-tu? Où tu vas devenir de plus en plus fort et de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Mais on a un combat. Et si on fait bien, on va grandir. D'ailleurs, ce qu'on va faire à travers cette série, on va regarder les fruits de l'esprit. Et à travers cette série, dans un esprit de prière, on va demander au Seigneur, « Seigneur, aide-moi à identifier et à cibler des fruits ou peut-être j'ai besoin d'augmenter ou que ce soit de meilleurs fruits. » Peut-être que toi, tu n'as pas de problème avec la patience. Et ça, c'est un des fruits de l'esprit. Peut-être que tu n'as pas de problème avec la patience. Moi, lorsque je suis sur Meloné à l'heure de pointe, j'ai un problème avec la patience. J'ai besoin de plus de fruits de l'esprit, de la patience. Peut-être que toi, c'est pas ton combat. Ça va bien. Mais à travers la série, peut-être que tu vas cibler un autre fruit que tu as besoin de développer. Mais sache ceci, et je tiens à te préparer, comme Paul nous prépare dans Galates, comme on vient de lire, c'est un combat. En d'autres mots, tu déclares la guerre. À partir du moment que tu prends position, puis tu dis, moi, je vais me tenir sur ce bord-ci, et moi, je vais mener le combat, laisse-moi te dire que, ouah, tu vas frapper, tu vas avoir des ennemis. C'est sûr. Ça, tu vas, quelque chose en toi va essayer de te dire, vas-y pas, fais-les pas, continue comme ça, pourquoi te donner tant de misère? Je te le dis, dès qu'on prend position et on s'engage à livrer ce combat-là, tu vas avoir l'opposition. Il y a quelque chose en toi qui va essayer de t'arrêter. Et c'est comme ça. Maintenant, je ne sais pas si tu es au courant, tu es probablement au courant, tu as entendu les nouvelles, mais je lisais hier ce qui se passe, je lisais un article dans la presse d'une envoyée spéciale qui s'appelle Isabelle Haché, je ne sais pas si vous avez lu ça dans la presse, ce qui se passe en Syrie, à Raqqa, une ville, et c'est épouvantable. Il y a un dissident qui raconte que tous les jours, il y a des exécutions, on coupe, on décapite et tout ça. Il y a même des crucifixions, c'est vraiment pas évident. Alors, les gens attendent pour savoir si le Canada va se mouiller. Finalement, Stephen Harper s'est mouillé et il a dit ceci. Il a dit, « Nous n'allons pas rester dans les gradins et regarder passer le défilé. Nous allons apporter notre contribution, comme on l'a toujours fait. » En d'autres mots, il se mouille, là. Il vient de prendre position, là. Et comme de fait, il a pris position, et qu'est-ce qui se passe? Une couple de jours après, ma femme a raconté hier que déjà là, il y a des menaces, on est rendu là que là, le Canada maintenant va peut-être être une cible, et on doit s'en attendre, parce qu'on a pris position. Et c'est comme ça, dans le fond, avec la vie chrétienne. Dès l'instant que tu prends position, que tu vas livrer un combat contre ta chair, tout de suite, mon ami, je te le dis, il va y avoir l'opposition. C'est vraiment un défi, mais c'est un bon combat. Avez-vous remarqué comment c'est difficile, par exemple, de parler du Seigneur Jésus-Christ à quelqu'un, à un étranger? C'est là qu'on voit le combat. Hein? Tu veux parler de Jésus-Christ, je ne sais pas si pour vous c'est facile, mais pour moi, je trouve ça difficile. Ça dépend de la journée, là, mais il y a des journées où je trouve vraiment ça difficile de vraiment parler de Jésus-Christ à un pur étranger. Moi, je me rappelle, il y a un matin, j'avais une livraison de Roche 03 quart chez nous, puis pour faire la terrasse, le terrassement chez nous. Puis on parle de samedi matin. Il est 7 heures du matin, je suis en pyjama, j'ai les cheveux tout croche, puis là, j'ai les petits yeux, puis tu sais, 7 heures du matin, samedi, tu sais, tu veux, c'est couché, puis là, il y a la livraison, il y a le camionneur qui est là, puis il arrive, là, le gars était de bonne humeur, mon ami, bonne humeur, puis tout ça, hein, il me parlait, belle personnalité, tout ça, hein. Vraiment un bon livreur, là, wow, puis là, à un moment donné, là, je suis dehors, je suis en pyjama, puis là, je lui parle, puis à un moment donné, il y a une petite voix, vous savez, la petite voix du Saint-Esprit, une petite voix qui dit, parle-lui de Jésus. Parle-lui de Jésus. Moi, je suis là, je suis en pyjama. Je le regarde, puis je dis, pas vrai. Là. Non, pas 7 heures du matin, tout ça. Je connais pas. Parler de Jésus. Là, il y a un combat qui commence en dedans de moi, parce qu'il y a un côté de moi qui dit, es-tu malade? Puis ça me dit ça, là, ça me parle. Ça me parle. Est-ce que tu te parles des fois? Ça me parle. Puis ça me dit, mais non, mais voyons, t'es en pyjama. Regarde que ça a de l'air. Il va te trouver un autre. Mais voyons donc. Mais le Saint-Esprit, lui, me disait, parle-lui de Jésus. Le Seigneur, lui, aimait ce camionneur-là. Moi, ce matin-là, là, non. Parle-lui de Jésus. Vois-tu? Pas évident. C'est un combat. Mais moi, je ne savais pas. Mais ce matin-là, ce gars-là, qui avait l'air super bonne humeur, faisait des jokes, des blagues, tout ça. Je dis, mon ami, hey, tout un. Vraiment, chic type, tout ça, mais ce gars-là venait de vivre une crise dans sa vie. Si bien qu'on s'est retrouvé quelques minutes après, assis dans ma voiture, en pyjama, puis en train de prier pour demander à Jésus d'entrer dans sa vie. Dieu avait un rendez-vous divin avec ce camionneur-là à 7 heures du matin. Mais moi, mon ami, là, j'avais un combat. Ça ne me tentait pas. Ma chair me disait, Ben non, il va rire de toi si tu parles de Jésus. Ben non, il veut rien savoir de Jésus. Tu vois, regarde, il est trop de bonne humeur, là, la vie est belle, il n'y a pas besoin de Jésus, tout ça. Heureusement que Dieu l'aimait plus que moi. Mais vois-tu, ça, c'est le combat. Il y a un combat en dedans de nous, c'est le combat de la chair contre les désirs de l'esprit. C'est comme le combat, hein, des célibataires parfois. Je parlais justement à quelqu'un qui vit ce combat-là cette semaine. Il se demande, il y a les désirs de l'esprit qui l'incitent à prendre position avec sa copine. Qui n'aime pas le Seigneur, ne veut rien savoir du Seigneur. Et il y a un combat. Et il me disait, justement, je le vis ce combat-là. C'est un combat, c'est une lutte intérieure. Il y a un combat en nous. Mais c'est un bon combat. Alors, le combat se passe à l'intérieur de nous. Autant les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont de l'intérieur. Paul parle de deux sortes de désirs, deux sortes de passions. C'est un combat entre notre ancienne nature et notre nouvelle nature. Notre cœur non régénéré, cette ancienne nature qui est là, parce que vous savez qu'on n'est pas encore ressuscité, donc on n'est pas encore, on n'a pas un corps ressuscité, on n'est pas parfait encore. On va être parfait seulement quand on va rentrer au ciel. En attendant, il y a encore cet arôme de péché qui est là, ce que Paul appelle la chair. Alors, verset 17, ça dit, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Il est question ici d'un désir, d'une passion intense. La chair a des désirs passionnés et l'esprit a des désirs passionnés. La passion de l'esprit, nous dit Jésus, dans Jean, c'est d'élever le Fils, c'est glorifier le Fils. Et c'est ça que l'Esprit Saint veut faire dans notre cœur, constamment chercher à élever le Fils. Alors l'enfant de Dieu a les deux désirs, des désirs charnels et des désirs divins. Mais ce qu'on veut vraiment depuis qu'on a un cœur régénéré, c'est de vouloir à quelque part faire la bonne chose. Il y a quelque chose en nous qui nous incite, et c'est le Saint-Esprit qui a changé notre cœur. Et au fond de nous, et ça c'est vraiment encourageant, le passage est encourageant pour ça, de nous rappeler que l'Esprit Saint veut nous conduire à un endroit. Il veut nous changer, nous transformer. Le chrétien a un cœur changé. On peut maintenant marcher avec le Seigneur. Alors qu'avant, c'était carrément impossible de le faire. On était perdus. Et c'est le point au verset 21, lorsque Paul dit, « Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. » En d'autres mots, ils sont en train de démontrer par leur comportement, parce qu'ils vivent dans l'habitude du péché, sont en train de montrer que leur cœur n'est pas encore régénéré par le Saint-Esprit. Parce que Paul va dire à la fin, « Nous, on a été crucifiés. » Donc, il fait un contraste ici. Ça ne veut pas dire qu'on tombera jamais. Mais non, on est encore pécheurs. Mais il y a quelque chose en nous, depuis qu'on a un cœur régénéré, qui tend vers le bien. Il y a ce combat-là à l'intérieur. Alors, être conduit par l'Esprit, c'est de vouloir changer et être changé. Paul explique, dans le fond, que la personne qui ne lutte jamais montre par son comportement que l'Esprit Saint ne l'a pas encore régénéré. Il n'est pas encore sauvé. Puis ça, c'est libérateur pour nous autres. Parce que ça nous rappelle qu'il y a quelque chose en nous qui veut faire le bien et que c'est un témoignage de la nouvelle naissance. Donc, il y a un combat entre les désirs de la chair et les désirs de l'Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quoi faire? Eh bien, Paul répond, il l'a dit deux fois, il veut absolument qu'on s'en souvienne. Vous savez, quand tu as des enfants, tu répètes souvent. Et parce que la répétition, c'est un bon enseignant, la répétition. Et ce que Paul va faire, il va le faire au début de son paragraphe, de son passage, puis il va le faire à la fin. Il va dire déjà au verset 16, qu'est-ce qu'il dit au verset 16? Il dit, « Voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Puis au verset 25, c'est un bloc. À la fin, il dit encore, marchons dans l'Esprit. Donc, tu marches par l'Esprit au début, à la fin, marche par l'Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi son message? C'est quoi son idée force? C'est quoi la vérité qu'il veut qu'on ramène chez nous, là, ici? Là? C'est marche par l'Esprit. Marche par l'Esprit. Comment on fait ça, marcher par l'Esprit? Et premièrement, le chrétien aura de plus en plus le caractère de Jésus-Christ en marchant par l'Esprit. Premièrement, on reconnaît le combat intérieur de la chair. et l'esprit. On le reconnaît. C'est pour ça que Paul le dit, écoutez, il y a un combat, vous avez besoin d'en être conscient. Il faut en être conscient. On a besoin d'apprendre à reconnaître ce combat-là intérieur pour savoir faire le bon choix. Et on a besoin d'encourager cette bon élan, ces bons choix. On veut marcher là. On ne veut pas éteindre l'esprit. On ne veut pas attrister l'esprit. On veut marcher dans ces désirs que l'esprit place en nous. On veut suivre cet élan-là. On veut donner le plus de place possible à cette œuvre du Saint-Esprit qui est en train de remodeler notre caractère. Deuxièmement, on regarde à ce que notre nature pécheresse est en train de nous raconter. On a besoin d'être honnête. Puis c'est vraiment de s'écouter et de dire, regarde, ça vient pas du Seigneur. Rappelez-vous la prière de David dans le psaume 139. C'est une prière très profonde qui dit, « Examine-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David n'est pas juste en train de parler du comportement ici, il est en train de parler de son cœur. Il est en train de parler de ses aspirations profondes de son cœur. Puis il demande à Dieu de s'assurer que ses motifs personnels soient corrects, soient purs, soient tout à l'honneur de Dieu. Par exemple, l'idée de l'hébreu, c'est « sonde mon cœur et connais mes préoccupations. Regarde ce qui me trouble au fond de moi. C'est quoi la source du problème au fond? Qu'est-ce que je suis en train de défendre? Par exemple, lorsque je me mets en colère, qu'est-ce que je suis vraiment en train de défendre au fond? Est-ce que c'est mon orgueil? Est-ce que c'est parce que je veux avoir raison? Moi, souvent, dans ma vie de couple, lorsqu'on a des chicanes, vous savez, à un moment donné, ça charge tous mes bons arguments bien intelligents, puis à un moment donné, je charge des niaiseries. Puis là, à un moment donné, tu sais, c'est comme, là, je suis là, dans moi, je ne laisse pas paraître à ma femme pour pas que ça paraisse, tu sais. Je veux continuer à paraître bien intelligent dans ce débat-là. Puis ma femme me connaît, écoute, ça fait assez longtemps qu'on est mariés, là, tu sais, il n'y a plus grand-chose. Là, elle me regarde avec un œil. Tu as vu les deux yeux. Ce qu'elle est en train de me dire sans parole, son verbiage, son vocabulaire, comment on dit ça, son langage non-verbal, elle est en train de me dire, « Really? » C'est le meilleur argument que tu pouvais... Vraiment, tu veux aller là? T'es rendu un peu trop loin, là. Mais elle dit rien. Elle dit rien, absolument rien. Ma femme a une maîtrise incroyable. Mais moi, je me sens niaiseux quelque part, là. Je suis là, puis tu sais, à un moment donné, t'es là, faut que tu poses la question. Qu'est-ce que je suis en train vraiment de défendre? Je suis en train juste de vouloir avoir raison. Très souvent, tu sais quoi? C'est juste ça. Pas vraiment dramatique. C'est pas la grosse affaire, ça ne changera pas, ça ne fera pas la fin du monde. Là, je suis là, je dis, mon ami, c'est donc bien nono, cette bataille hier, la chicane, c'est-tu vraiment, là, ça valait-tu à peine? Puis tu sondes le cœur, tu regardes ce qui te préoccupait dans le fond, c'était mon orgueil. Tu avais raison, je voulais sortir de là, puis, il y a eu le dernier mot. C'est-tu, hein? Est-ce que je suis seul ici avec la même? Ah! La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Hein? L'Esprit Saint veut te dire au départ, elle a raison. Fais juste dire oui. C'est un conseil, j'ai donné ça. J'ai donné ce conseil-là à mon gendre quand il s'est marié avec ma fille. J'ai dit, garde, on va te donner un conseil. Oui, chérie. Pas au pied. Ça, c'est ma profondeur, ma grande sagesse. Oui, chérie. Don't fight it. Au début, hein? C'est rendu qu'il donne ce conseil-là maintenant aux gens dans son église. Fais juste dire oui, chérie. C'était pas si fou que ça, mon affaire. Aïe, aïe, aïe. David devrait dire, regarde, Seigneur, sonde mes préoccupations. Sonde vraiment ce qui se trouve en dedans, là, puis c'est quoi que je suis en train de défendre. Fait que tu as besoin de ça. Tu veux marcher dans l'esprit, là, c'est ça. Regarde ce que ta nature pécheresse est en train de te compter, là. D'accord? Comment marcher par l'esprit? Reconnais le combat intérieur de la chair et de l'esprit. Regarde ce que ta nature pécheresse est en train de raconter à ton cœur. Puis troisièmement, rappelle-toi, et on a besoin toujours de se rappeler ça, rappelle-toi ce que l'Esprit Saint a fait en toi. Hey, t'es rendu un enfant de Dieu. T'es pas n'importe qui. T'es rendu un enfant de Dieu. Dieu t'a libéré. Tu n'es plus un esclave de la loi. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu n'es plus un esclave de la loi. Tu es rendu maintenant libéré. Tu peux devenir tout ce que le cœur régénéré veut devenir en toi. Tu peux le devenir. Tu peux plaire à Dieu, avancer, grandir. Tu es libre maintenant. Je t'ai libéré. Tu as ce pouvoir-là, cette capacité-là. Et c'est l'œuvre de mon esprit. Je veux faire cette œuvre-là en toi, dit le Seigneur. Alors, le Saint-Esprit veut nous changer, nous transformer de plus en plus. Et c'est ce qu'on va voir au cours des prochaines semaines. On va voir au cours des prochaines semaines le fruit de l'Esprit. On va voir différents aspects du fruit de l'Esprit. Et dans le fond, c'est vraiment encourageant de regarder le fruit de l'Esprit parce que ce sont des attributs communicables de Dieu. Vous savez, Dieu a deux genres d'attributs. Il y a des attributs qui ne se communiquent pas. Par exemple, l'omniscience. Moi, j'aimerais ça recevoir cet attribut-là de Dieu. Tout savoir, tout connaître. Plus jamais, mon ami. Il y a des gens, même il y a des chrétiens qui s'imaginent que quand on va rentrer au ciel, on n'aura plus jamais de questions. Ils disent ça. Et on va tout savoir, on n'aura plus de questions. Non, c'est un attribut qui ne se communique pas, ça. Dieu ne te donnera pas l'omniscience quand tu vas arriver au ciel. Bon, tu es à la bonne place pour avoir des réponses. Et certainement, tu vas passer ton éternité à découvrir la grandeur, la splendeur de Dieu. C'est tellement riche. Vous savez, il y a un passage qui dit, dans le Nouveau Testament, où les anges sont encore, après des milliers d'années, sont encore en train, ils découvrent l'infiniment. L'infinie sagesse de Dieu, et ça parle de l'Évangile. Imaginez, après des milliers d'années, les anges sont encore en train de découvrir la richesse et la profondeur de l'Évangile. Hey, ça fait des milliers d'années qui sont là dans le ciel. Alors moi, je peux vous dire, on ne rejoindra jamais la profondeur et la beauté de l'Évangile. Et on va passer l'éternité, justement, à découvrir la beauté de l'amour de Dieu qui s'est manifesté à la croix. Mais s'il y a des attributs non communicables de Dieu, il y a des attributs communicables. Et ça, c'est le fruit de l'Esprit. La joie. Un attribut de Dieu. Dieu est joie. Dieu est joie. Dieu est amour. Il peut communiquer cet attribut-là. Et c'est ce qu'il veut faire. Il veut nous transmettre, nous communiquer ces attributs-là et travailler notre caractère, refaire ce cœur qui avait été dépravé, déchu par le péché. Il est en train de le restaurer, le guérir, le refaire. Et c'est pour ça que je trouvais que cette vidéo qu'on a vue ce matin représentait tellement bien l'œuvre que l'Esprit veut accomplir dans notre vie. Il est en train de refaire, rebâtir notre caractère. Comme c'est bon, il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir. Et c'est ce qu'on veut faire au cours du prochain mois. Au cours de ce prochain mois, vous allez peut-être, et en prière, vous voulez demander au Seigneur, et c'est ma prière également, que le Seigneur puisse vous montrer certains attributs ou communicables, certains fruits de l'Esprit où peut-être que vous avez besoin de travailler et livrer un bon combat. Et c'est ma prière. Mais ça commence avec une décision ce matin. Et c'est Paul qui nous l'envoie deux fois. Il dit « Marchez selon l'Esprit ». En d'autres mots, mouille-toi. Prends l'engagement à travers cette série que tu vas livrer ce bon combat-là pour aller chercher ces beaux fruits, produire ces beaux fruits dans ta vie, les fruits que tu as besoin de guérir, de produire. D'accord? Ça commence ce matin. Et ça, c'est le message que Paul est en train de nous donner ici dans ce passage. Combat le bon combat. Marche par l'Esprit. D'accord? Prions. Eh bien, Seigneur notre Dieu, d'abord, nous voulons te remercier pour ta parole, te remercier pour ces enseignements dans Galates. Et merci de ce que tu ne nous laisses pas orphelins à nous débrouiller tout seuls, mais que ton esprit nous accompagne et est en train d'accomplir une œuvre vraiment extraordinaire dans nos vies. Merci, Seigneur. On te prie que tu puisses bénir cette série, que chacun ici, ce matin, puisse, ensemble avec moi, qu'on puisse faire un pas de foi et chercher à marcher dans l'Esprit. Parce qu'on veut voir ces beaux fruits. On veut rester branché dans la vigne. On veut rester branché. On veut demeurer en toi. On veut se saturer de toi, de ton amour, de ta grandeur. Et Seigneur, on te prie que tu fasses de belles délivrances, des belles bénédictions au cours de cette série, Seigneur. Montre-nous par ton esprit les domaines qu'on a besoin de produire, où on a besoin de produire plus de fruits. Aide-nous, Seigneur. Et on verra de meilleurs mariages, des mariages plus solides, de la joie dans des foyers. On verra plus d'amour. On te prie, Seigneur. Et c'est pour te glorifier. C'est On veut t'honorer, Seigneur, par nos vies. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour la victoire que nous avons en Jésus. Amen.